demande d'éteindre vos téléphones portables pour que la cérémonie puisse se dérouler dans des conditions normales.
Je me place où ?
Regagnez vos emplacements. Pour les porte-drapeaux, veuillez rectifier la position. À mon commandement, pour les porte-drapeaux, garde à vous. Ouvrez le banc. Nous allons procéder à des dépôts de gerbes, selon la tradition. Gerbes des fils et filles des déportés juifs de France, déposés par Claude Blocherberg, représentant maître Serge Klarsfeld. Gerbe de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, déposé par M. Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Gerbe du Fonds social juif unifié, déposé par Madame Alexandra Barouche, représentant Ariel Goldman, président du FSJU. Gerbe de la maire du 9e arrondissement de Paris, déposé par le conseiller municipal la représentant. Gerbe de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, déposée par M. Jacques-Yves Bobot, conseiller régional, la représentant. Gerbe de la maire de Paris, déposé par Madame Jeanne Dotzer, maire du 8e arrondissement. Pour les porte-drapeaux, repos. Monsieur le grand rabbin de Paris, qui devait présider cette cérémonie, sera en retard car il est pris autour de la synagogue de la Victoire, il nous rejoindra. Messieurs les rabbins, monsieur le représentant, monsieur le ministre délégué aux armées et aux anciens combattants, madame la représentante de l'ambassade d'Israël, madame la députée, madame la maire du 8e arrondissement, monsieur le maire du 17e arrondissement, mesdames et messieurs les élus de Paris, de Levallois, de Neuilly-sur-Seine, de Courbevoie et de Sarcelles, monsieur le conseiller régional représentant madame la présidente Valérie Pécresse, monsieur le président du CRIF, monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, mesdames et messieurs les présidents et représentants des grandes organisations juives, monsieur Claude Moschenberg, représentant Serge Larsfeld, et messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, d'anciens déportés et de mémoire, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers enfants du Talmud et Torah, de la synagogue de Djerba, de Buffo et du Centre français du judaïsme tunisien, car vous êtes l'avenir et la transmission. Mesdames et messieurs, il est difficile de parler dans cette crypte dont le sol renferme des cendres ramenées des camps d'extermination, dont les armoires contiennent les restes de rouleaux sacrés des communautés d'Europe de l'Est, toutes décimées et disparues. Ici, tout appelle au silence, au souvenir, au recueillement, à la prière. La musique, parce qu'elle sait exprimer la langue de la douleur, serait peut-être plus appropriée là où l'éloquence ne saurait trouver l'ombre d'une fonction. Ici, l'on ferme les yeux et l'on entend les cris de détresse, les ordres hurlés, les voix de ces 6 millions d'hommes, femmes, enfants qui, parce que juifs, ont franchi le passage de l'humanité à la barbarie. Alors les mots sont vides de sens et dérisoires. Et pourtant, je fais face à cette flamme de l'ossuaire qui scintille et brille comme un défi à la nuit. Cette lumière rappelle la vie. La vie qui renaît, qui revient. Et pour les vivants d'aujourd'hui, pour les enfants qui sont ici et qui auront à transmettre demain, j'ai le devoir de raconter. De raconter pour rendre hommage aux victimes. De raconter pour que ne se renouvelle pas la tentation de l'inhumain. Depuis le 7 octobre 2023, nous savons que l'inhumain est toujours possible et nous avons vu par les images que les moyens modernes permettent de diffuser des actes de barbarie les plus monstrueux, les plus indignes après la Shoah. Alors, je dois raconter. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquaient en Algérie et au Maroc, prélude à la libération de l'Europe du joug nazi. Hitler comprit aussitôt que pour éviter que les troupes de Rommel qui se battaient en Libye, poursuivies par la 8e armée de Montgomery et les forces françaises libres de Gaulle, ne soient prises en tenaille, il comprit qu'il lui fallait occuper la Tunisie et diriger ses troupes vers l'Algérie pour rejeter les Alliés à la mer et les priver de ses bases de départ vers l'Europe. Le 9 novembre 1942, des troupes germano-italiennes prennent pied en Tunisie. Ce pays de douceur, au ciel bleu éclatant, devient le théâtre d'une bataille de 6 mois, une des batailles les plus meurtrières de la guerre. Alors que la situation aurait dû être leur unique préoccupation, là, comme partout où ils passèrent, comme à Paris, à Varsovie, comme à Rome et à Salonique, comme à Budapest et dans la petite île de Rhodes, les Allemands s'en prennent à la population juive, déjà victime depuis novembre 1940 des lois discriminatoires de Vichy. C'est le colonel SS Rauf qui est le responsable de l'action anti-juive, se vaillant en trouvant sans doute moins dangereux de s'en prendre à des populations sans défense que d'aller en soldat combattre d'autres soldats sur le front. Ami d'Heydrich et adjoint d'Eichmann, Rauf avait organisé la mise à mort industrielle des juifs d'Europe inventeur des camions à gaz mobiles où périrent des milliers de juifs polonais, il participa ensuite à la conception des chambres à gaz. Au début de 1942, alors que Rommel s'apprête à envahir l'Égypte, Rauf est détaché auprès de l'état-major de Rommel. Il a mission, pour le cas bien espéré de victoire de Rommel sur les Britanniques, de « traiter » entre guillemets la question juive en Égypte et en Palestine. Mais l'offensive britannique contraint Rommel à reculer jusqu'en Libye, puis de là jusqu'en Tunisie. Rauf n'a donc pas pu exécuter sa mission. Mais puisque le cours de la guerre l'a placé en Tunisie, puisqu'il y a des juifs en Tunisie, Rauf, en soldat discipliné, va tenter d'exécuter sa mission et de traiter la population juive. Il ne dispose que d'une dizaine de SS et les généraux de la Wehrmacht, confrontés aux difficultés du front, sont peu enclins à mettre à sa disposition leurs soldats pour une mission qu'ils ne comprennent pas ou dont ils ne voient pas l'utilité sur le plan militaire. Rauf tente alors de pousser la population musulmane au pogrom. Pour cela, il distribue force billets de banque, mais en pure perte, car informés, les chefs de la population musulmane réussirent à empêcher l'exécution de ce drame qui se limita au pillage d'entrepôts et de marchandises. Furieux, Rauf décide alors d'enfermer les juifs de 18 à 40 ans dans des camps de travail disséminés sur le territoire tunisien sous prétexte de travaux pour le compte des armées de l'Axe. Mais en fait, et nous en avons retrouvé la preuve il y a quelques années, seulement pour les fusiller le jour où, comme il l'espérait, les troupes allemandes perceraient le front et avanceraient sur l'Algérie, comme il l'espérait. Le 9 décembre au matin, Rauf se présente avec ses SS à la grande synagogue de l'avenue de Paris. Les SS tirent des coups de feu, frappent les gens en prière, vandalisent le lieu saint en profanant les rouleaux de la Torah, détruisent des livres et des objets sacrés, vandalisent le mobilier et arrêtent tous les hommes présents, y compris les rabbins, les officiants, les vieillards, les infirmes. Dans tout le quartier, renseignés sur les identités par de jeunes arabes, les soldats allemands arrêtent tous les juifs qui passent et il en est de même aux abords de l'école de l'Alliance israélite rue Matasfera. C'est la rafle. Toute la journée du 9 décembre, plusieurs milliers de juifs sont arrêtés et acheminés à pied sous la garde de la soldatesque allemande vers des camps de travail, pour la plupart le long de la ligne de front. La première victime est un jeune homme de 19 ans, Gilbert Mazouz, qui portant un appareil orthopédique, trébuche et tombe épuisé au bout d'une marche de 50 km, malgré tous les efforts de ses compagnons d'infortune. Un SS le tue froidement d'un coup de fusil. Et le lendemain, ce sera le tour d'un élève rabbin, Victor Nataf, 19 ans, tué parce qu'il fallait impressionner la population juive en tuant un rabbin. À partir du 9 décembre 1942 et jusqu'à la libération de Tunis le 8 mai 1943, pendant que 100 notables sont emprisonnés en qualité d'otages destinés à une mort certaine, 5000 jeunes juifs de Tunisie sont envoyés dans des camps. Utilisés comme main-d'œuvre dans des conditions contraires aux droits des gens, ils sont employés aux endroits les plus exposés sur les terrains d'aviation, les champs de bataille, sous les coups de cravache des gardiens allemands, victimes permanentes de sévices, d'exactions et parfois, hélas, d'assassinats. À Nabeul, à Kérouan, à Sfax, à Sousse, les Allemands agissent de même avec, dans cette dernière ville, le triste concours de SOL français. Et partout, des réquisitions mobilières, des pillages, des amendes collectives. Plus de 80 millions d'amendes, des viols de femmes. Et au mois d'avril 1943, un mois avant la libération de Tunis, un premier contingent de déportés par avion, pour l'Italie, puis de là vers les camps d'Orientenburg, de Mauthausen et d'Auschwitz. Heureusement, moins d'un mois plus tard, le 8 mai 1943, les armées de l'Axe, prises en tenaille entre les forces alliées venues de Tripolitaine et celles venues d'Algérie, étaient contraintes de capituler. Il n'y eut pas de deuxième convoi. Ce cortège de souffrance qui s'est traduit par des larmes pour des pères, des mères, des épouses, des enfants, apparaît infinitésimal face aux souffrances des Juifs d'Europe. Mais il ne convient pas de distinguer ou de séparer. Ce serait indécent. Car toutes les souffrances procèdent d'un même dessein pour chasser toujours et partout les Juifs de toutes origines, de toutes nationalités, croyants ou incroyants, orthodoxes ou libéraux, fidèles à la tradition de leurs ancêtres ou la rejetant. En invoquant cette période dramatique, je n'oublie pas que la population juive eut l'honneur de rencontrer l'aide ou le réconfort d'amis musulmans ou chrétiens, dont le prince de la dynastie Hussénite qui régnait alors sur la Tunisie, affirmant que les juifs étaient ses enfants, où Mgr Gounod, archevêque de Carthage, mettant les catholiques en garde contre l'antisémitisme et rappelant « Jésus-Christ, notre divin modèle, était juif ». Cette cérémonie associe le souvenir des Juifs de Tunisie morts au champ d'honneur en même temps que les noms des déportés et des morts dans les camps de travail. Il y a 2 ans, sur la suggestion de notre société, une jeune agrégée d'histoire a soutenu en Sorbonne une thèse sur les Juifs de Tunisie dans l'armée française durant les 2 guerres mondiales, qui a été publiée il y a quelques mois. Elle révèle qu'en 1943, 85% des Juifs français mobilisables avaient refusé de répondre à l'ordre de mobilisation de l'armée d'Afrique commandée par le général Giraud et avaient rallié les forces françaises libres parce qu'elles incarnaient l'honneur et la République. Indépendamment des Juifs français et tunisiens, combattant des campagnes d'Afrique, de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne, nous devons aussi saluer la mémoire des résistants, ceux qui ont le bonheur de revenir, comme Serge Moiti, Lise Hannon et les courageux en crime, Maurice Taïeb, qui n'hésitèrent pas, alors qu'ils étaient détenus dans un camp de travail, à continuer leur action, et ceux qui ne revinrent pas, comme Alfred Rossi, Édouard Dana, Victor Cohen ou Max Gage, natifs de Sousse, compagnons de la Libération, cités par le général de Gaulle dans ses mémoires. Ce qui s'est passé il y a 82 ans nous rappelle combien nous devons rester vigilants, tandis que resurgissent les vieux démons, la haine de l'autre, le rejet de l'autre, l'antisémitisme, le négationnisme. Certes, la vue d'une mère qui pleure son enfant, que cet enfant soit un petit Israélien, éventré, décapité, tué, ou un enfant de Gaza, mort sous un bombardement, est toujours un spectacle qui heurte la conscience humaine. Mais nous savons depuis le 7 octobre ce que c'est que s'en prendre à des enfants. Nous savons que depuis le 7 octobre, on a pris comme otage un bébé de 9 mois. Que ce bébé est toujours otage. Nous ne savons pas dans quelles conditions. Nous ne savons pas s'il est avec ses parents. Nous ne savons pas comment il est nourri. Alors, messieurs du Comité international de la Croix-Rouge, alors, messieurs d'Amnesty International, vous qui avez le loisir d'inspecter les prisons israéliennes, un peu de pudeur. Nous vous attendons. Et nous attendons ce bébé de 9 mois qui, depuis plus d'un an, est otage. Le 7 décembre 2014, à l'occasion de cette même cérémonie, j'évoquais l'affreuse tuerie de Toulouse. Et je disais, il y a quelques mois à Toulouse, on a tué 3 militaires parce qu'ils étaient français et qu'ils faisaient leur devoir pour leur pays. À Toulouse, on a tué 1 enseignant et 3 enfants parce qu'ils étaient juifs. À Toulouse, on a mis un revolver sur la tempe d'une fillette de 9 ans et on l'a tué froidement parce qu'elle était juive. À Toulouse, on a tué 2 petits garçons de 4 et 5 ans parce qu'ils étaient juifs. Et j'ajoutais, nous ne voulons plus de tels crimes dans notre beau pays de France. Nous ne voulons plus. J'étais optimiste. Combien de morts depuis les 4 otages de l'hypercachère, dont le jeune Attab venu de Tunisie, parce qu'ils étaient juifs. Sarah Halimi, parce qu'elle était juive. Mireille Knoll, parce qu'elle était juive. Et depuis le 7 octobre 2003, combien de synagogues attaquées, combien de cris de mort aux juifs entendus ici ou là, combien de tags sur des maisons juives, combien d'enfants maltraités dans les écoles juives ou non juives, obligés de quitter l'école publique, l'école de la République, parce qu'elle ne peut pas les protéger. Et qu'on ne nous dise pas que cela est la conséquence des événements du Proche-Orient. Ce ne sont pas des lieux israéliens ou des citoyens israéliens que l'on attaque en France. Ce sont des Français, parce qu'ils sont juifs. Et le pire est arrivé. Nous avons vu, nous avons entendu, le 8 septembre dernier, sur une place chargée d'histoire de France, qui porte le beau nom de place de la nation, des individus, incapables de les comprendre, en présence de députés, revêtus de leurs écharpes qu'ils n'avaient pas eu la décence d'enlever pour ne pas les avilir, nous avons entendu, dis-je, un certain Elias Dimogène appelé à l'intifada dans Paris. Êtes-vous prêt, dit-il, à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, sous les applaudissements de la foule? L'intifada dans Paris, dans les banlieues, dans les quartiers, contre qui? Contre les Israéliens? Il y en a si peu. Non, contre les Juifs, contre les Français juifs. Propos d'un fou, c'était ce que l'on disait en 1934 des discours d'Hitler. Et nous savons maintenant que les discours d'un fou peuvent devenir réalité. Un récent sondage révélait que 12% des Français pensaient que le départ des Juifs de France était une bonne chose pour la France, et que 17% des moins de 35 ans pensaient de même. 64% des Français reconnaissent que les Juifs avaient des raisons d'être inquiets en France. En cet instant, où nous commémorons les victimes de l'antisémitisme il y a 82 ans, je ne puis ignorer les avertissements d'aujourd'hui. Juifs croyants, l'existence d'Israël est nécessaire à ma foi, car elle est la réalisation de la promesse divine à Abraham. Un juif peut vivre en dehors d'Israël, a dit Elie Wiesel, mais il ne peut pas vivre sans l'existence d'Israël. La France est mon pays. J'ai bu aux sources de sa culture, selon l'expression de Marc Bloch. J'ai fait mien son passé. J'aime ces mots polis sur les lèvres des siècles, mots drapeau de Bossuet, mots jolis de Voltaire. Je ne me sens moi-même que sur son sol, et comme les miens, j'ai tenté de la servir. Trois de mes grands oncles sont morts pour la France au champ d'honneur. Leur sang a chassé sur la terre de France de la Champagne pouilleuse à la Loire. Et on voudrait m'extraire de ce pays, quelles que soient les circonstances, je ne le quitterai pas. Ce serait trahir les miens et trahir les valeurs de la République. On a dit que la lutte contre l'antisémitisme devait être déclarée cause nationale. Sans doute, cause de l'Europe, cause de l'humanité entière. On peut rêver. Ce que je sais, c'est que ceux qui prônent l'antisémitisme en France, qui veulent l'intifada sur les territoires français, n'ont pas leur place dans la communauté nationale. Ils en sont indignes. Ils n'ont rien compris aux valeurs de la France, aux valeurs de la République, qui font d'elle l'espoir des hommes qui souffrent pour la liberté. Parce qu'elle est la patrie des Lumières, qui a aboli les murs des ghettos en Europe au fur et à mesure de l'avancée des armées de la Révolution et de l'Empire. Évoquer le passé permet de sensibiliser tous ceux qui ont conscience que face aux menaces qui reprennent forme, il nous faut réagir avec résolution. Il faut que notre émotion devienne un combat pour préserver nos valeurs, les valeurs de la France, les valeurs de la République. Alors quand l'humanité sera pénétrée de ce respect mutuel pour naître un monde nouveau auquel aspirent dans l'angoisse et dans l'espoir les hommes avides de paix et de bonheur, ce monde nouveau qui ne sera autre que celui annoncé dans l'antique mais toujours actuelle prophétie d'Isaïe, plus de méfaits, plus de violence sur ma montagne sainte. Vosé shalom et mon âme, ou yassé shalom alenu ve al kol Israël. Veillez-vous. Amen. Nous allons maintenant procéder à l'allumage des bougies. La première bougie sera allumée par Monsieur le rabbin Elfassi. Donc par M. Joël Mergui, qui vient d'arriver, président du Consistoire de Paris. La première bougie va être allumée par M. Joël Mergui, accompagné par deux enfants du Talmud Torah de Djerba. inhumé à la mémoire des déportés de Tunisie par Serge Moiti, fils de déporté, accompagné par deux enfants du Talmud Torah de Buffo. Des Juifs de Tunisie morts dans les camps de travail, par le docteur Kabla, accompagné par deux enfants du Talmud Torah du Centre français du judaïsme tunisien. Sera allumé à la mémoire des Juifs de Tunisie, morts pour la France au champ d'honneur par messieurs les rabbins de l'aumônerie militaire israélite, accompagnés par les jeunes polytechniciens. Mes lieutenants, je salue l'arrivée de monsieur le grand rabbin de Paris. Allumé à la mémoire du grand rabbin Haïm Belaïch, Zirolo Librara, grand rabbin de Tunisie pendant cette période dramatique, du président Moïse Borgel et des membres de la communauté qui, au péril de leur vie, demeurèrent à leur poste pour sauvegarder la population juive. Elle sera allumée par monsieur le grand rabbin de Paris, accompagné de deux enfants du Talmud Torah de Djerba. Chrétiens de Tunisie qui aidèrent les Juifs dans les circonstances dramatiques qu'ils ont connues. Cette bougie sera allumée par monsieur René Trabelsi, accompagné par deux enfants du Talmud Torah de Buffo.
מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, שמעו את היכל קודשך, שמו את ירושלים מלאים, נתנו את נבלת עבדך, מחל לעוף השמיים, בשר חסידך לחי תוארץ, שפיכו דמם כמים, סביבות ירושלים ואין קובר, היינו חרפה לשכננו, לג וכלס לסביבותינו, אדמה אדוני תנף לנצר, שבער כמו אש תינתך, שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך ועל הממלכות, אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נביאו אשמו. אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד עוזרנו, אלוהי אישנו. על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו, למען שמך.
Tous ensemble, nous allons dire le Kaddish. Au drapeau! Id gadal v'id kadash shemei rabba Be'alma dibera kirute v'yamlich malrute v'yasma pokane v'karem v'shire v'yechon v'yomechon v'yeh v'yehol bet Yisrael v'agala v'zman kariv v'yimru amen v'yeh shemei rabba m'rach alam l'alme almaya l'arach, t'apar, t'apar, oman, nase t'adar, v'italé, v'italal שמי דקודשה בריאו, ואלה מכל ביחתה שרתת ורתה ונחמתה, דאמיר על מעלמה ואימרו אמן. חיים,
כפרה,
לנו, אמן. Pour les porte-drapeaux, repos.
Thank you.
Nous allons entendre maintenant un message de Serge Klarsfeld, lu par Claude Bocherbert. Le grand ouvrage de référence sur la Shoah, celui de Raoul Hilberg, s'intitule, comme vous le savez, « La destruction des Juifs d'Europe ». Mais Hitler ne limitait pas l'extermination des Juifs au continent européen, il l'envisageait pour tout l'espace conquis par le Troisième Reich. Sa volonté génocidaire était telle qu'il ne supportait pas l'humanité que témoignaient aux Juifs les militaires et les diplomates italiens qui, dans leur zone d'occupation en France, où s'étaient réfugiés plus de 25 000 Juifs, ont refusé de livrer un seul Juif pendant les 10 mois de leur présence. Le continent africain, lui aussi, a été la cible des Allemands quand ils ont occupé la Tunisie. La Gestapo, la SS ont tenté de déporter les Juifs de Tunisie. Ils les ont contraints au travail forcé, mais leur situation militaire dépendant des liaisons maritimes avec l'Europe et la Méditerranée étant sous contrôle des Alliés, ils n'ont pas réussi à ajouter un crime de masse supplémentaire à leur palmarès. Quant aux Juifs de Libye, internés par les Italiens dans les camps insalubres où la mortalité fut grande, ils furent à la demande des Allemands transférés en 1943 en Italie, d'où ils furent déportés en 1944 vers les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Les Juifs de Tunisie ne furent pas la seule exception. Les Juifs de Palestine sur le continent asiatique sont eux aussi devenus une priorité quand les chars de Rommel fonçaient sur le Caire en juin 1942. Immédiatement, Himmler a chargé le colonel SS Walter Rauf, ça a été rappelé par Claude Nataf, responsable technique des camions à gaz, de liquider ces Juifs. Et Rauf, dans l'attente de la prise du Caire, est allé s'installer à Athènes. Les Anglais ont vaincu Rommel et Rauf, au lieu d'aller à Jérusalem, a reçu en novembre une nouvelle mission, liquider les Juifs tunisiens. Il a échoué, mais il a laissé aux Juifs tunisiens de cette génération une impression ineffaçable en raison de ces terrifiantes menaces et de la mort brutale de jeunes Juifs contraints aux travaux forcés. Claude Nataf s'est astreint lui aussi à un travail forcé. Mettre son implacable mémoire et ses recherches inlassables au service de ce qui s'était passé pour les Juifs en Tunisie et aussi en France, où ils furent arrêtés comme les autres Juifs. « À mon initiative, dit Serge Klarsfeld, la Fondation pour la mémoire de la Shoah a publié et publiera tout récit authentique de l'époque et témoignant du sort des Juifs de Tunisie. Plusieurs ouvrages ont déjà été publiés, tous annotés par Claude Nataf. Notre génération et la suivante, celle des enfants, des survivants de la Shoah, a assumé ses responsabilités. La page d'histoire de la Shoah qui fut celle de la survie miraculeuse des Juifs tunisiens, cette page a été soigneusement écrite et les jeunes Juifs originaires de Tunisie ne peuvent et doivent apprendre. Pardonnez. Pardonnez-moi, apprendre à transmettre, ils n'auraient pas vu le jour si cette grande communauté avait été, comme les Juifs de Libye, transportée en Italie et de là à Auschwitz. Ils le doivent d'autant plus que le petit nombre de Juifs qui vivent encore en Tunisie reste menacé et que même ceux d'Israël vivent aussi sous la menace du Hamas, du Hezbollah et de la future bombe nucléaire iranienne.
Elohim Eliyata Esh שחריך בסוד סגולתך, אמונתך הודיעה, והגיד גדולתך בקורי. אדוני שפתי צפתח, ופי יגיד תהילתך. אלוהים עליתם, חנון הנערץ בסוד צפי מעוני, זוכרני והתחנני בגיוני, בקורי ענני. יום כרואיך ומקלות אמוני, נשמעת קולך שמך אדוני.
Je vais maintenant demander à mon ami d'enfance, que j'appelle Henri, qu'on appelle Serge, Moiti, fils de déporté, de nous dire quelques mots. J'ai retrouvé, il y a un an à peu près, le compte-rendu d'une conférence faite en 1945 par Serge Moiti, de retour de déportation, le père, au théâtre municipal de Tunis. Sur la condition des Juifs de France, en France pendant l'occupation. Et parlant de sa propre aventure, il dit un mot. Un seul. Nous avons été déportés au camp d'Orientenbourg. De ce que j'ai vu dans ce camp, je ne dirai rien. Tout était dit.
Merci. Vous savez, j'ai rarement autant pleuré un matin du dimanche qu'aujourd'hui. Je suis très, très ému. Très ému par ce qu'a dit Claude. Parce que vous avez tous, je suis bouleversé, et ça me rappelle par moments une enfance, la mienne. J'avais 8 ans, vous voyez, bon, comme certains ici, 8 ans. Et j'étais à Tunis, évidemment, quoi, devant la maison que j'avais, de mes parents. Et je joue avec une petite fille que j'adorais, j'étais déjà dragueur. Une jupe écossaise comme ça, vous voyez, qui, comme ça, blonde, comme ça. Et elle me dit, il faut plus que je te voie. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? J'étais désespéré. Hein. Monique, elle s'appelait. Elle me dit, je ne veux plus te voir, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as tué Dieu. Et je ne me souvenais absolument pas de ce meurtre que j'aurais connu. Là, vraiment, je cherchais dans ma tête, je me suis mis à pleurer, un peu comme aujourd'hui, mais dans l'autre sens. Et vraiment, quoi, j'avais tué Dieu, vous vous rendez compte ? Mais oui, tu peux pleurer, ça fait rien. Tous les Juifs ont tué Dieu. Alors là, vous savez, on peut être amnésique par moment, mais là, c'était... Mais non, je ne me souvenais pas, quoi. Alors, je suis rentré à la maison, vite, et il y avait mon père qui était là, le vrai Serge, moi, j'ai pris son prénom après. Et je lui dis, papa, c'est vrai qu'on a tué Dieu ? Oui, mais c'est Monique qui m'a dit ça. Bon, viens me voir. Il savait, il ne l'adorait pas. Je vais t'expliquer. Il y a des gens qui ne nous aiment pas parce qu'on est juif. Oh. Ah bon, alors il rentrait de déportation, il faut dire, mon papa. Ouais, de déportation. Il avait été arrêté en tant que résistant et amené dans un camp de concentration à Rienenburg comme résistant. Vous vous rendez compte? Sinon, je ne serais pas là pour vous parler si on avait dit qu'il était juif, peut-être. Résistant. Je suis très fier d'avoir un papa juif et résistant. Très fier. Bon, et on était là comme ça, et il me dit, je sais pas, il est mort, très vite après. C'est le seul qui m'ait parlé de ça. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis bouleversé ici, parce qu'on ne m'a jamais parlé du judaïsme, vraiment. Vous voyez, je fais ce que j'ai pu, moi, tout seul. Ah, pardon. Quoi? Je m'approche du micro? Ah oui, je m'approche de toi, alors. Non, mais... Ah oui, d'accord. Non, mais vous vous rendez compte, on m'a jamais dit un mot en hébreu. J'ai mon oncle qui est parti en Israël, André Semama, je crois que ça vous dit quelque chose, le frère de ma mère. Moi, je suis allé en Israël de temps en temps, comme ça. Comme j'étais orphelin de père et de mère à 11 ans, vous vous rendez compte, orphelin de père et de mère, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et alors, j'avais une passion, heureusement, c'était le sinoche. Et je suis devenu ce que je suis devenu, quoi. Pas grand talent, hein. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai adoré faire ce que j'ai pu. Et donc voilà, et donc je suis devenu après... Mais l'antisémitisme, je ne l'ai pas connu tout de suite. J'avais oublié Monique, figurez-vous. Il faut jamais oublier Monique. Jamais. Promettez-moi de jamais oublier Monique. Celle qui dit « tu as tué Dieu ». Et non, et je vous disais, bon... Alors, à un moment, j'ai été nommé patron de France 3. Bon, et je vais prendre un café, au café devant la maison de la radio, là où était France 3 à l'époque, il y a longtemps, hein. Je suis pas tout jeune, hein, bon. Et donc, je prends un café, il y a deux types au bar, là, qui ne me connaissent pas, et qui disent, t'as vu qu'ils ont nommé Moati ? Ah, le patron de France 3 ? Et l'autre qui lui répond, ah les juifs, putain, ils sont partout, ils savent se démerder, etc. Je savais pas que je m'étais démerdé. Et donc ça m'a bouleversé aussi. Vous voyez, c'est des moments comme ça. J'ai jamais pensé qu'être juif, ça pouvait être aussi une fierté, un bonheur, une liberté, un courage. Comme j'ai entendu chez Nataf, là. J'ai adoré son discours. Vraiment, j'ai adoré. Ah mais oui, mais alors, j'ai... Non, vous me tuez là. Alors, il est là. Bon. J'ai adoré ce qu'il a dit et il m'a fait chialer. Il m'a fait chialer. Je pleure beaucoup, hein. Mais ce n'est pas une conjonctivite mal. Mais c'est des émotions que j'ai à vous rencontrer. Tous. Vraiment, ça me fait très, très, très plaisir. Je ne sais pas comment devenir juif maintenant. Vraiment juif. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis circoncis, heureusement. Et dans la pension où j'étais. Après la mort de mes parents, vous savez, quand vous vous retrouvez orphelin à 11 ans, je ne savais plus où aller. Quoi. On m'a mis en pension au lycée Michelet, à Bande. Et un soir, dans le grand dortoir sinistre du lycée Michelet, je sens mon lit qui bouge comme ça. Ils étaient une quinzaine de pensionnaires comme moi, et ils ont voulu voir le zizi coupé que j'avais. Alors, je ne comprenais pas, c'était affreux comme sensation, vous voyez. C'était ça être juif pour moi. Des types qui viennent comme ça m'agresser dans mon lit parce que je suis juif. Voilà, et aujourd'hui, je suis fier d'être juif, grâce à vous tous. Je suis fier d'être juif et je ne sais pas comment faire, j'ai 78 ans maintenant, vous voyez, personne ne va plus me dire vous avez tué Dieu. Je pense. Qui a applaudi à 78 ans? Ah, je suis plus vieux, oui, c'est ça, d'accord. Oui, je suis plus vieux. Oui, d'accord. Enfin bon, merci les gars. Donc, du coup, je vais être juif maintenant. Alors j'ai du boulot, hein. J'ai du boulot. Je vais être juif maintenant. Et je voulais vous embrasser très bien. J'avais noté des trucs. J'ai perdu mon truc. Peu importe. Hein? C'est bon. Voilà. Je voulais vous embrasser toutes et tous. Je suis heureux d'être là. Heureux d'être avec vous. Fier d'être avec vous. Oui, fier et heureux d'être avec vous. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont parlé. Merci beaucoup.
La parole est à monsieur le grand rabbin de Paris, qui, fidèle à la tradition inaugurée en 1997 par son prédécesseur, le grand rabbin David Messas, de mémoire bénie, veut bien présider cette cérémonie.
Mes chers amis, il nous arrive parfois de rencontrer sur notre chemin une personnalité qui, au-delà de ses obligations personnelles, familiales, professionnelles, religieuses, se sent investie d'une mission particulière à laquelle il consacre toutes ses forces. En ce sens, je voudrais rendre hommage aujourd'hui à M. Claude Nataf. Consacre tout son être à organiser la commémoration de cette rafle des Juifs de Tunisie le 9 décembre 1942, premier Tevet 5702. Et c'est vrai que c'est très important de se souvenir que les Juifs de Tunisie, eux aussi, ont été victimes de la Shoah. Il est important de nous souvenir de tous ces Juifs qui ont tant souffert et qui, pour certains d'entre eux, la vie s'est terminée à Auschwitz. Mais aussi, il faut se rappeler que la solution finale a totalement échoué, que les nazis ont été sévèrement punis et que les représentants de ce judaïsme de Tunisie, qui est si fidèle à nos traditions, qui est si beau, qui est si chaleureux, eh bien les représentants de ce judaïsme tunisien sont toujours vivants. Et en vérité, c'est le sens de ce rêve que notre patriarche Jacob a fait dans la paracha que nous avons lue hier, ce fameux rêve de l'échelle. Oui, il y a une échelle qui est posée par terre et qui repose jusqu'au ciel. Oui, il y a des anges qui montent sur cette échelle pour dire à Dieu, pour relater à Dieu tout ce qui se passe ici-bas, et qui redescendent pour intervenir ici-bas sur l'ordre divin. Et puis surtout, au-dessus de Jacob, il y a Dieu lui-même, qui est le symbole de la providence, qui veille sans cesse non seulement sur le patriarche, mais sur le peuple juif tout entier. Et c'est l'assurance de sa vie éternelle. Am Israël Chai.
J'appelle maintenant un aumônier militaire à venir lire la prière pour la République française. Et je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour cette prière.
Dieu éternel, Créateur et Maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi tout seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français.
Amen.
Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice.
Amen.
Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations.
Amen.
Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté.
Amen.
Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur.
Amen.
Accueille favorablement nos voeux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur.
Fermez le banc. Nous allons procéder maintenant à la lecture des noms des Juifs de Tunisie marchands d'honneur, puis non revenus de déportation, puis des morts dans les camps de travail. Selon l'usage que nous avons initié l'an dernier, je dirai simplement, après le nom des morts au champ d'honneur dans les rangs des forces françaises libres, leur appartenance à l'unité des forces françaises libres concernées. Pour les porte-drapeaux, repos. La lecture des noms va commencer par des enfants des différents familles des Torahs. Pendant la lecture des noms, les porte-drapeaux se mettront au drapeau et messieurs les officiers, mes jeunes lieutenants, vous êtes priés de saluer. À mon commandement, pour les porte-drapeaux, au drapeau!
Liste des Juifs de Tunisie, morts au champ d'honneur, communauté de Tunis. Alfred Rossi,
lieutenant BCRA, Force Française Libre.
Abraham Albert Belaïch,
première DFL.
Jacques Aboif,
première DFL.
Élie Assous, Sauveur Attal. Simon Attal, Henri Atlan, Albert Roger Azria, Elmile Belassem.
Force aérienne française libre.
Lucien Ben Baron.
Commando d'Afrique.
Sylvain Boucris.
Force navale française libre.
Charles Robert Caton. Léon Chemama. Paul Chidboun.
Force aérienne française libre.
Roger Chidboun.
Force aérienne française libre.
Raymond Sion Choukara Chouraki. Victor Chouraki.
Deuxième DB.
Joseph Cohen. Joseph Jean Darmon.
Force aérienne française libre.
David Darmon.
Maquis FFI.
Mardoché Ange Gozlan.
Première DFL.
Salomon Roger Agege.
Maquis FFI.
Marcel Azan. Angelo Foriantino. Félix Paul Caroli.
Roland Médame. Pinchas Mouy, Jacques Isaac Narboni.
Force française de l'intérieur.
Guy Raymond Samama.
Deuxième DB.
Denis Mardoché Samama.
Deuxième DB.
Émile Samuel Sebag. Maurice Sebouk. Isaac Citruc. Jacques Smadja.
Lieutenant Force française de l'intérieur.
Charles Soufier. Raymond Raka.
Deuxième DB.
Victor Zarka. Charles Zarka.
Première DFL.
André Zerbib. Benjamin Zerbib.
Première DFL, première RH en rosé.
Joseph Zitoun. Chaim Yari. Lucien Usan.
Première DFL.
Victor Roger Usan. Ernest Sedmou.
Première DFL.
Henri Cohen Delara.
Maki FFI.
Victor Krief. Armand René Bogobza.
Première DFL.
Communauté de Sfax. Jean-Jacques Attal. Roger Nataf.
Deuxième DB.
René Sibon.
Deuxième DB.
Jonas Azria.
Deuxième DB.
Jacques Bérébi.
Deuxième DB.
Joseph Jaoui. Victor Agege.
Deuxième DB.
Victor Zira. René Saagou.
Première DFL.
Roger Guetta.
Deuxième DB.
Félix Zana. Maurice Borges da Silva.
Deuxième DB.
Samuel Azria.
Première DFL.
Communauté de Sousse. Max Gage.
Force aérienne française libre, compagnon de la libération.
Élie Louis Maslia.
Deuxième DB.
Clément Cohen. Robert Samuel Tubiana.
Première DFL.
Paul Bokobza. Communauté de Djerba. Serge de Guido Parence.
Première DFL.
Communauté de Béja. André Hen Cohen. Ishwa Sauveur Cohen.
Corps franc d'Afrique. Mort pour la France.
Liste des déportés de Tunisie non revenus des camps d'extermination. Bâtonnier Victor Cohen Adria. Docteur David Goldeger. Docteur Benjamin Lévy. Raymond Samama. Isaac Assous, Victor Rai Cohen, Edouard Dana, Edmond Salomon Sika, Joseph Semla. Gilbert Semla, Jean Semla, Docteur Joseph Nataf, Émile Smadja, Chaim Tibi, Victor Slama, Hector Bonan, Walter Rutschmann, Di Rousseau, Gaston Nataf.
Mort parce que juif.
Liste des Juifs de Tunisie morts dans les camps de travail lors de l'occupation de la Tunisie par les nazis. Communauté de Tunis. Simon Alali, 24 ans. Robert Amram, 26 ans. Sauveur Assous, 20 ans. Kiki Jacob Attal, 25 ans. Robert Attal, 18 ans. Edmond Azria, 21 ans. Gaston Bokobza, 22 ans. Joseph Chéry, 19 ans. Jacques Cohen, 20 ans. Robert Cohen, 24 ans. Henri Darmouni, 28 ans. Albert Fitoussi, 23 ans. Isaac Gozlan, 25 ans. Camus Guetta, 30 ans. Albert Guez, 20 ans. Shalom Guez, 24 ans. Émile Abaou, 19 ans. Mardoché Akoun, 34 ans. André Haddad, 22 ans. Salomon Houri, 28 ans. Émile Jaoui, 29 ans. Maurice Calfon, 28 ans. Jacques Torza, 19 ans. Maurice Caroubi, 21 ans. Victor Lelouch, 40 ans.
Gilbert Mazouz, 19 ans. Jacques Memoun, 30 ans. André Nakache, 23 ans. Élève rabbin Victor Nataf, 19 ans. Maurice Nizar, 18 ans. Ernest Simon Saada, 24 ans. Elie Saadoul, 19 ans. Abraham Sidbon, 18 ans. Albert Slava, 22 ans. André Suel, 22 ans. Albert Chibi, 20 ans. Gino Uzan, 25 ans. Mardoché Younes, 26 ans. Édouard Zetoun, 22 ans. Communauté de Nabeul, Meyer Djaoui, 29 ans. Albert Temal, 22 ans. Communauté de Sousse, Élie Lucien Boukobza, 25 ans. Élie Dagi, 23 ans. Victor Gay, 30 ans. Joseph Saada, 25 ans. Moïse Perrault, 22 ans. Disparu probablement fusillé par la gendarmerie allemande lors de l'évacuation ou déporté en Allemagne. Victor Habitbol, 23 ans. Alfred Boublil, 22 ans.
Mort parce que juif.
טוב שם משמן טוב יום המוות ממבלדו סוף דבר כל הנשמע את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור כי זה כל אדם יעלזו חסידים בכבוד ירעננו במשכבותם ננוחה נכונה בשבעי עליונה תחת כנפי השכינה במעלה קדושים ודורים כזוהר רקיע מהירים ומזהירים בחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע והרחבת ישע וחמלה וחנינה מנפני שוכן מעונה וכולה כתבה לחיי עולם הבא שם תהיה מנו פרסת ושבת נפש נשמות יהוד לטוניסיה שנהרגו ושנרצחו על ידי הנאצים מר שמם רוח אדוני תניחם בגן עדן והתפטרו מן על מה הדם קירו תלהה מראה שמיה והרע מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליהם ויחוס ויחמול עליהם מלך מלכי המלכים ברחמיו יסירם בצל כנפיו ובסתר העולו לחזות באלוהם אדוני מבקר בהיכלו ולקץ הימים יעמידם ומנחל אדוניו ישכם ויצחור בצחור אחיו נשמתם וישים כבוד מנוחתם אדוני מנחל אדם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום כי דרכי יביא שלום מנוחם לשכבותם הולך נכוחו הם וכל בני ישראל השורבים מהם בכלל הרב מסליחות וכן יהיה רצון ונאמר אמן
אומר
Thank you.
Cette cérémonie va prendre fin, selon l'usage, par la Marseillaise, mais auparavant, en l'honneur de la représentante diplomatique d'Israël, nous allons entonner la Hatikva, l'hymne national d'Israël. Monsieur le Grand Rabbin, je rappelle que cet après-midi, il y aura à l'auditorium du Mémorial de la Shoah une table ronde d'historiens sur le thème « Les Juifs de Tunisie, s'engager, résister, combattre ». Merci, merci aux porte-drapeaux et merci à toutes les délégations présentes.